1617. ESS 117, le magazine de l'économie sociale et solidaire en région Centre-Val-de-Loire. Ce programme vous est proposé par la Crescent en partenariat avec les radios associatives régionales. Bonjour et bienvenue dans ESS 117. Aujourd'hui, nous consacrons ce numéro aux achats solidaires puisque se tenait du 15 au 19 novembre dernier la semaine des achats socialement et écologiquement responsables. Première édition initiée par ESS France avec les chambres régionales d'économie sociale et solidaire. La semaine ACER a pour ambition d'être un événement fort qui favorise les rencontres et l'interconnaissance entre les entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire et les publics cibles, les potentiels acheteurs. Nous avons rencontré Fabrice Combet, responsable développement et économique de ESS France. Il nous en dit plus sur cette semaine des achats socialement et écologiquement responsables. Alors bonjour Fabrice Combet, vous êtes responsable développement économique de ESS France. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement les diverses activités de ESS France ?
Alors rapidement, ESS France est une association qui représente les acteurs de l'économie sociale et solidaire que sont les associations, les coopératives, les mutuelles et les entreprises commerciales de l'ESS. Aujourd'hui, quand on parle d'ESS sur le territoire métropolitain, même plus largement en France, on parle de 220 000 entreprises, ce qui représente à peu près 14% du PIB, ce qui n'est pas rien. Et au sein de ESS France, en fait, ESS France est représenté par ses membres qui sont les grandes familles de l'économie sociale et solidaire et en particulier par les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire qui sont les représentants sur les territoires au plus près des acteurs économiques. Donc ESS France a pour vocation de fédérer l'ensemble de ces acteurs, de les représenter auprès des pouvoirs publics et aussi de promouvoir le secteur de l'économie sociale et solidaire, et notamment au travers du mois de l'ESS, puisque on vient de clôturer le mois de l'ESS. La clôture officielle est le 2 décembre, donc jeudi 2 décembre, mais le mois de l'ESS qui est un événement national qui promeut les activités d'économie sociale et solidaire auprès du grand public, mais aussi des professionnels.
Alors justement, votre activité principale, c'est d'accompagner le développement des entreprises et des filières de l'économie sociale et solidaire. Et pour ça, vous avez des outils, en fait. Vous avez plusieurs outils qui sont à votre disposition. Vous mettez à disposition également des entreprises pour aider non seulement à construire un projet ESS, pour également en fait pouvoir se rencontrer entre différents acteurs de l'ESS. Quels sont ces différents outils ?
Oui, alors on n'accompagne pas directement les entreprises, puisque dans nos membres sont les têtes de réseau régional, entre autres, qui animent sur le territoire et vraiment sur la dimension locale, font de l'animation des écosystèmes d'acteurs, des entreprises, travaillent avec les collectivités. Et en effet, on a plusieurs outils qu'on met à disposition de nos adhérents, de nos membres et des acteurs, même plus largement de l'ESS, qui ne sont pas forcément adhérents dans une chambre régionale de l'économie sociale et solidaire ou directement avec ESS France. Mais on a un outil qui s'appelle au moins l'ESS, qui est en fait une plateforme, un événement national qui, dans un premier temps, permet de faire connaître ce secteur à l'ensemble des acteurs, économiques ou pas, on peut parler même du grand public, et c'est tous les ans pendant le mois de novembre. Et c'est vrai que dans le cadre du mois de l'ESS, il y a des semaines thématiques qui vont cibler certaines typologies d'acteurs économiques. Et cette année, on a lancé la première édition de la semaine ASER. Alors ASER, qui est l'acronyme de Achat socialement et écologiquement responsable. L'idée étant de mobiliser les acteurs économiques et notamment les acheteurs publics et privés, de mieux connaître les acteurs de l'économie sociale et solidaire, mieux connaître les entreprises, mais aussi les réseaux qui accompagnent ces entreprises pour que demain, dans la mise en place de marchés publics, voire même privés, ils puissent mettre en place des marchés qui pourraient être réservés à ces entreprises-là. Alors ça, c'est un outil, on va dire, de promotion, de sensibilisation. Et dans notre animation, on a bien évidemment des outils qui nous permettent d'organiser des rencontres d'affaires. Donc vous avez des événements qui s'appellent des expressos dans certains territoires, qui sont animés par des chambres régionales d'économie sociale et solidaire, qu'on appelle des CRES. Donc chaque région a une CRES. Alors, des régions, on appelle ça des expressos. À d'autres endroits, en Occitanie, on appelle ça des Coventis Club. En Hauts-de-France, on appelle ça des business clubs. L'idée étant de faire se rencontrer, soit par filière ou soit par on va dire, zone géographique, des acteurs économiques de tous bords, ESS, hors ESS, mais aussi collectivités, à se rencontrer pour apprendre à se connaître et voir de quelle manière ces structures peuvent travailler ensemble dans les temps à venir.
Alors, pour revenir à la semaine des achats socialement et écologiquement responsables, c'était entre le 15 et le 19 novembre dernier. Comment, justement, on peut influer dans la stratégie de politique d'achat public aujourd'hui en France?
Mais je pense d'une part, il faut, je pense, connaître les dispositions qui vont dans le bon sens, les dispositions ou les clauses, on va dire, les articles des marchés publics, entre autres. Et on voit que les lois évoluent. Alors, je dis les lois parce que depuis quelques années, il y a un certain nombre de lois qui vont dans le sens, qui vont obliger la commande publique à être un petit peu plus vertueuse dans sa fonction d'achat, c'est-à-dire mettre en place des clauses sociales, mais aussi environnementales. Je pense qu'en tant qu'acteur économique, il faut, à premier niveau, avoir cette connaissance-là de ces dispositions pour aller à la rencontre, des acheteurs, qu'ils soient publics ou privés. Je pense que ça, c'est la première étape. Après, nous, si on peut appeler ça du lobbying, on va appeler ça plutôt, nous, de la sensibilisation. C'est-à-dire que je pense qu'il faut participer à des groupes de travail, il ne faut pas hésiter à aller à la rencontre de ces acteurs-là, des acheteurs ou des collectivités ou des élus même. Parce qu'en fait, on se rend compte avec le temps que le binôme élu-opérationnel est vraiment important. On ne peut pas dissocier l'un et l'autre. Le politique est important pour marquer un axe, donner une direction, avoir la vision et donner une direction, une impulsion. L'organisationnel, c'est le chargé de mission d'une collectivité, un agent de service qui va comment dire, traduire cette volonté politique par un cahier technique jusqu'à la mise en place d'un marché public. Donc, le travail de lobbying, si on peut utiliser ce terme-là, je l'aime pas trop, mais c'est plutôt voilà, de sensibiliser l'ensemble de cette chaîne-là, politique et organisationnelle. Et puis de favoriser les rencontres. Et nous, on va se positionner comme des facilitateurs de rencontres. C'est vraiment notre rôle, c'est-à-dire c'est de promouvoir et de faciliter ces rencontres avec l'ensemble de ces acteurs-là. Alors, on fait ça depuis de nombreuses années. Hein. On fait ça depuis de nombreuses années avec des outils qui nous permettent d'organiser des rencontres, tout simplement de la gestion d'inscription, de créer des matchings, de créer des catalogues en ligne où des entreprises ou les agents de services de collectivités peuvent prendre des rendez-vous avec des entreprises et on appelle ça du sourcing. Ça leur permet d'identifier qui fait quoi sur leur territoire et de les rencontrer tout simplement pour mieux les connaître. Et éventuellement, dans la rédaction d'un marché, mais peut-être de l'orienter pour faciliter cette structure ou ces structures, si elles répondent en groupement, ben, de répondre à un marché et de pouvoir le gagner.
Alors, vous avez davantage d'outils encore hein, pour notamment ce qui concerne la transition écologique, énergétique. Aujourd'hui, vous avez non seulement en fait pour la semaine des achats socialement et écologiquement responsables, deux beaux outils qui sont deux visioconférences à regarder sur les acheteurs publics ou privés, la commande publique. Catalyseur d'une transition écologique solidaire de l'économie, et puis une autre sur la durabilité des achats, voilà qui permet eh bien, à de futurs acheteurs en fait, de pouvoir eh bien, s'informer et s'outiller efficacement pour faire en sorte d'acheter durablement et de participer justement à une action solidaire. La seconde grosse activité, hein, j'en parlais tout à l'heure, de ESS France, c'est également d'œuvrer pour la transition écologique et particulièrement dans deux domaines, l'économie circulaire et le réemploi. Alors aujourd'hui, l'ESS est confronté à plusieurs défis en matière de transition écologique. Il s'agit là, ce coup-ci, en fait, d'impliquer le citoyen et non plus peut-être les entreprises ou bien les collectivités territoriales dans leurs achats, mais plutôt d'impliquer davantage le citoyen et de transformer en profondeur notre modèle économique et social.
Oui, alors c'est vrai que nous, du coup, on s'adresse quand même essentiellement alors, aux entreprises, ou on va dire aux professionnels, j'ai envie de dire au sens large, en tant que structure, même si par définition, et vous le savez, hein, dans l'ESS, la grande représentation, l'ESS est vraiment représentée par le grand public au niveau du bénévolat, parce que c'est ce qui fait la force aussi du réseau. Et en effet, alors, pour rebondir sur est-ce qu'on peut appeler ça deux outils? Alors, oui, en effet, on a eu, il y a deux conférences qui vont certainement être visibles, alors prochainement, parce qu'on est en train de changer de site internet, mais qui ont été diffusées dans le cadre du, en fait, qui ont été filmées en visioconférence dans le cadre de la semaine AZER, donc la cérémonie d'ouverture et de clôture. Et en fait, nous, l'objectif, c'était vraiment de pouvoir sensibiliser l'ensemble des acteurs, des parties prenantes des achats. Alors, il y avait un volet très économique sur la partie commande publique et notamment sur les clauses sociales, l'importance des clauses sociales et la place des entreprises d'insertion dans ces marchés-là. Mais plus largement, je crois que nous, notre défi, l'enjeu, c'est que ce soit l'ensemble des entreprises de l'ESS qui puissent répondre au marché public et pas forcément que les entreprises d'insertion, j'ai envie de dire, qui aujourd'hui représentent à peu près une dizaine de pourcents dans l'ensemble des acteurs de l'ESS.
Oui, on pense aux ESAT, aux...
Exactement, les entreprises d'insertion, les SIAE, les structures d'insertion par activité économique, ou les ESAT, qui sont les établissements qui emploient des personnes en situation de handicap, ou les entreprises adaptées.
Mais en effet, il y a d'autres clauses sociales et il y a d'autres acteurs de l'économie qui peuvent œuvrer, en effet.
Alors vous avez à peu près, si on parle du secteur de l'insertion, ce sont à peu près 8000 structures. Hein, quand on parlait tout à l'heure de 220 000 entreprises dans l'ESS, alors entreprises au sens large, on parle bien d'associations, de coopératives, de mutuelles, ce sont 220 000 structures employeuses. Quand on parle d'insertion, c'est à peu près entre 6 et 8 000, je m'aventurerai pas sur le chiffre exact. Donc on voit bien qu'il reste quand même une grande partie des acteurs de l'ESS qui peuvent se positionner. Alors bien évidemment, ce ne sont pas les 220 000 qui sont intéressés par les marchés publics. Mais en tout cas, voilà, on voit bien que le spectre est beaucoup plus large.
Quel levier, en fait, pour justement faire du social quand on n'est pas une entreprise d'insertion?
Je vais prendre un exemple un peu poussé. Je peux vous prendre un exemple d'une association. Et je pense, et notamment des associations qui sont dans l'éducation à l'environnement, qui aujourd'hui sont animées par des spécialistes, hein, vraiment des experts sur le sujet de la transition écologique, et qui peuvent se positionner sur des marchés pour accompagner des collectivités. Alors, je pense notamment à la mise en place d'Espaceur, qui est un des dispositifs qu'on va retrouver dans la commande publique, qui est en fait le schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables. Alors, désolé pour les auditeurs, hein, ce sont vraiment des acronymes, on est noyé sous les acronymes, et ça peut devenir très technique. En fait, tout simplement, c'est une feuille de route, c'est un schéma qui engage la collectivité sur plusieurs années à dire, mais voilà ce que nous on fait, et voilà les ambitions que nous avons dans les 5 prochaines années, les 3 à 5 prochaines années, pour que notre commande publique soit plus vertueuse et s'engage sur un certain nombre sur des pourcentages de marchés qui vont être réservés avec des clauses sociales ou des clauses environnementales qui vont s'engagent pour que les acheteurs puissent faire des choix et sélectionner des entreprises qui vont pouvoir répondre à des marchés qui intègrent ces clauses-là. Alors, pour revenir sur l'exemple, alors si on sort du schéma entreprise d'insertion ou structure d'insertion un peu traditionnelle, on peut imaginer une association qui va pouvoir accompagner une collectivité à mettre en place son Spazer ou qui va pouvoir accompagner des entreprises dans leur RSE. Et tout simplement, là on parle d'une association, hein, on s'imagine souvent que ce sont des entreprises à but lucratif qui peuvent, sous on va dire une casquette de consultant, accompagner ce type de structure-là, alors qu'on a des associations qui sont vraiment en mesure de le faire. Je ne vais pas en citer, mais vous en avez sur tout le territoire qui sont en mesure de le faire. Vous avez Si on parle d'alimentation durable, de circuits courts, des collectivités qui aujourd'hui ont des obligations de mettre en place des circuits courts d'approvisionnement pour la restauration collective, elles peuvent faire appel à des coopératives agricoles locales qui sont en mesure de mettre en place une logistique, de les approvisionner avec des fruits et légumes locaux, voilà, dans un rayon de 60 km, et livrés directement soit dans une centrale. Dans une centrale, une cuisine centrale, pardon, ou directement dans les établissements. Voilà deux exemples, on pourra en citer d'autres, des SCOP du bâtiment, donc des sociétés coopératives qui peuvent se positionner sur des marchés publics, dans le BTP, dans la peinture, enfin voilà, dans du second œuvre, et qui ne sont pas forcément dans le secteur de l'insertion.
Je vous remercie beaucoup, Fabrice Combet. Je le rappelle, vous êtes responsable développement économique d'ESS France. All that I need is your love, cannot receive of your love. All that I need is your love, I'm in some need of your love. Vous êtes toujours à l'écoute d'ESS 117. Ce mois-ci, nous nous consacrons aux achats solidaires. Alors partons maintenant à la rencontre de structures dont les activités sont la collecte, le réemploi et la sensibilisation pour donner une seconde vie à des objets tout en créant des emplois en insertion. La ressource AA, ressourcerie d'Orléans, nous ouvre ses portes.
Bonjour, je suis Yoann Moriconi, président de la ressource AAA.
Bonjour, je suis Estelle Prévost, chargée de développement à la ressourcerie d'Orléans.
Bonjour, moi c'est Chloé, je suis plutôt couteau suisse dans la ressourcerie, je m'occupe plutôt du graphisme et du précieux plastique, mais je suis aussi en vente, en animation, un peu partout.
On a fait cette visite ? Allez, c'est parti. Alors ici c'est nos locaux de valorisation, ça veut dire que tous les objets que nous collectons ils arrivent ici. Donc ça rentre par cette grande porte qui est derrière nous, ça passe ici dans un petit peu de stockage, mais surtout c'est pesé. Parce que tout ce que nous collectons est pesé par gisement, ça nous permet d'avoir un suivi de la traçabilité pour savoir ce qui vient un petit peu par gisement, que ce soit du textile, des meubles, des livres. Et tout ce que, de la vaisselle et tout ce qu'on collecte. Une fois que ça a été pesé, on passe à l'étape de tri. Donc là, c'est un premier filtrage des objets. Ce qui va avoir besoin d'être nettoyé, réparé, ça va aller ici derrière à l'aire de lavage. Et puis tout va être ce qui va repartir qu'on ne peut pas utiliser, réemployer, ça va repartir en recyclage. Voire en déchets ultimes, mais c'est une toute petite partie, on pourra en parler tout à l'heure. Et ce qui va passer donc ce filtrage va aller en table d'étiquetage. Donc là c'est un petit peu le rendez-vous de tous les gens qui connaissent certains gisements et qui ont un peu l'expérience de ça, qui vont donner un prix aux objets avant que ça parte en boutique. Donc tout ce qui va partir en boutique ça va finir dans ces grandes caisses qui sont là. Normalement on stocke pas, mais comme il y a eu un peu de confinement ces derniers temps, on a été obligé de stocker les caisses, mais là on a bien résorbé le tas de caisses qui était à la place là, de ce que vous voyez là, de la grande échelle qui est là. Tout ce que vous voyez ici ensuite, donc là on a la partie petit mobilier, et on n'a pas la place de faire des gros meubles, donc on fait de la petite table, de la chaise, du guéridon, des petites choses comme ce que vous voyez là. Tout ce qu'il y a derrière vous là, c'est ce qui vient des déchetteries, parce que nous collectons maintenant depuis quelques années avec un groupement du réemploi. Nous sommes 6 associations avec Emmaüs, Interaction, Respire, Abrasi Développement et Envie. Et nous collectons en fait dans 4 déchetteries, à Saint-Jean-de-Bray, à Ingré, à Saran et à La Source. Donc, tout ce qui arrive des déchetteries, il y a jusqu'à 2 camions de 20 mètres cubes par semaine. C'est dispatché entre les différents acteurs du groupement et ça arrive ici où c'est rangé en attente de tri, nettoyage, réparation, suivant les gisements. Ce que vous voyez ici, ça va être les bacs de recyclage. Donc nous on travaille avec Écologique, qui est le plus vertueux des éco-organismes. Tout ce qu'on n'arrive pas à réemployer, qui est trop abîmé, on va le mettre ici, éventuellement en ayant prélevé des pièces dessus, qui nous permet de réparer d'autres appareils. Cette partie-là, ça va être beaucoup électroménager, tout ce qui est électrique, électronique. On a 4 paillasses, donc les gens prennent les appareils. Aussi bien des bénévoles que des salariés, ils vont prendre les appareils et puis ils vont les ouvrir, ils vont les tester, ils vont réparer quand c'est possible, changer des pièces ou garder des pièces quand c'est pas réparable. Et puis ensuite, ça repart à la table d'étiquetage pour avoir un prix. Ou bien ça attend un petit peu d'avoir... Des fois, il y a des choses en attente de pièces, comme ce que vous voyez là, un petit peu, ou en attente de fin de test. Mais on essaye vraiment d'avoir un flux le plus tendu possible parce qu'on n'a vraiment pas la place de stocker. Il nous faudrait, on est vraiment dépendant, nous, aux ressourceries, de la place qu'on a pour travailler, pour traiter plus d'objets. C'est-à-dire qu'il y a un vrai ratio entre le tonnage d'objets traités et la place dont on dispose. Et donc là, aujourd'hui, on est contraint par cette place. On va continuer par là. Donc cette grotte-là, c'est les produits culturels. Donc c'est, là, il n'y a pas de réparation, mais il y a un gros tri, il faut connaître un petit peu, hein, de tout type de bouquins, de toutes époques, sur tous les sujets, du vinyle, du jeu vidéo, du DVD, du CD, qui attendent tous leur place en boutique, parce que y a un réassort régulier, hein, toutes les semaines, voire deux fois par semaine, il y a un réassort vers les boutiques pour tout ça. Et pour les autres types d'objets, là on a un petit peu de librairie papeterie. On travaille avec une entreprise qui s'appelle Recycle Livre, qui est une entreprise nationale qui récupère des livres et qui les revend sur son site de vente en ligne. Ça nous permet pour des livres qu'on ne vendrait pas en boutique, de les donner à Recycle Livre, qui va nous verser un petit pourcentage sur la vente. Et qu'on paye des actions pour une association dont je ne me rappelle plus le nom, qui fait de l'alphabétisation. Et si vraiment on a des documents culturels, par exemple des livres qui ne servent à rien, et ben ça va finir ici et ça va être recyclé dans une entreprise du Loiret. Alors on va continuer par ici. Donc là c'est tout ce qui est textile. Donc là, le textile, au départ, le textile, on ne voulait pas en faire parce qu'il y a déjà le tremplin sur Orléans qui fait ça, qui gère notamment les bornes de dépôt de textile, mais on nous en a amené tellement que on n'a pas forcément eu le choix. Mais du coup, tout ce que nous, on ne va pas utiliser, réemployer, ça part au tremplin quand même. Et donc là, pareil, c'est trié, on fait trier par été-hiver pour envoyer ce qui est de saison en boutique. Et c'est pas mal de travail parce qu'il faut remplir des cartons, en sortir. On va continuer par la vente en ligne. Alors la vente en ligne, c'est quelque chose qu'on fait depuis presque 2 ans. On a commencé en fin 2019. Donc on est sur le site Label Emmaüs, qui est un site à l'initiative d'Emmaüs France. Qui est ouvert donc aux communautés Emmaüs et aux ressourceries, et qui est un vrai support pour nos salariés d'insertion, pour se former au métier de la logistique, parce qu'on leur apprend à faire des photos, on leur apprend à utiliser un ordinateur pour passer une annonce, pour rédiger une annonce, pour mettre en ligne les photos, pour suivre les ventes, et puis ensuite il y a une étape colisage, où là il faut faire, vous voyez les objets, il n'y a que des trucs différents, c'est jamais deux fois le même colis. Et il faut que ça arrive en un seul morceau, même si c'est fragile. Alors il faut ensuite suivre le colis, l'emmener dans un relais avec le bon livreur, et puis gérer les litiges. Donc on a ici 4 personnes, donc une encadrante technique et 3 personnes en insertion qui sont sur ce volet-là. Et on a déjà 2 personnes qui sont sorties vers l'emploi après leur parcours d'insertion au sein de la ressourcerie. Là, on arrive dans la caverne de l'animation. Donc, notre responsable d'animation vient ici quand elle a besoin de travailler un petit peu. C'est pour faire des prototypes, pour préparer des animations, pour essayer des techniques. Parce qu'ensuite, elle prend sa camionnette, ses outils, et puis elle va au pied des immeubles ou dans les écoles pour partager des compétences, des savoirs, sur tout un type d'objets ou de matière. Donc ça peut être aussi bien de la carte, de la vieille carte IGN, que du textile, que des pièces de puzzle, que des boîtiers de cassettes. Enfin, il y a vraiment... La seule limite, c'est l'imagination, hein. Et ça permet aussi de sensibiliser les gens au fait qu'avec, qu'avec des choses qu'on allait jeter, on peut refaire quelque chose, quoi. En étant créatif ou astucieux, que ce soit pour de la déco, que ce soit pour prolonger la vie d'un objet, il y a toujours quelque chose à faire dans une bonne partie des cas pour que ça aille un peu plus loin ou pour en faire autre chose et éviter de le mettre à la déchetterie.
Bah, par exemple, on a ici, on a transformé une chemise, une manche de chemise en manche à pain. Ici, c'est juste le t-shirt, la manche d'un t-shirt qui permet de faire des poches à vrac. Ou là, un t-shirt qu'on a transformé en tote bag avec des franges. Et ici, des t-shirts qu'on a transformés en coussins. Donc voilà un petit peu les exemples.
Quand on sait que le textile, c'est le deuxième pollueur mondial, on se dit que réussir à faire des choses avec, avec tout ce qu'on a en textile et qui n'est plus forcément métable tel quel en tant que vêtement, bah c'est, ça, ça aide pas mal en fait à réduire le gisement en fait de ce qui finirait à la poubelle.
8000 litres d'eau pour fabriquer un t-shirt par exemple. Voilà.
On va continuer avec la caverne des jouets. Alors voilà, c'est ici que les salariés viennent s'amuser, pas midi. Non, plus sérieusement, en fait, ici, c'est tout. Alors, vous voyez que c'est une majorité de plastique. Et le plastique, en fait, nous, sur ce qu'on collecte à la ressourcerie, on a 5% en fin d'année, ou sur le long de l'année, qui retourne en déchetterie. Alors, c'est 5% depuis le début de l'association en 2014, mais ces 5%, c'est majoritairement du plastique. Donc là, on voit des Lego, on voit d'autres marques de jouets super connues. On a aussi des petites cochonneries qui viennent de McDo et autres. Et ça, effectivement, il n'y a pas marqué le type de plastique que c'est dessus. C'est souvent des trucs qui sont vite cassés, dont personne ne veut. Qu'est-ce qu'on en fait ? Alors nous, on a acheté des machines grâce au soutien de l'État. On a acheté des machines qui s'appellent Precious Plastic pour faire du recyclage local de plastique. Donc on a 4 machines plus une imprimante 3D qui nous permettent de broyer le plastique pour en faire des copeaux et puis ensuite produire des plaques extrudées dans des moules pour faire des petits mousquetons comme celui-ci, pour faire des briques, pour faire des bancs, des barres. Le but étant pas forcément de se lancer dans l'industrie du plastique, mais montrer que en baissant notre taux de retour en déchetterie, on peut faire de la sensibilisation pour dire aux gens bah, le plastique c'est pas top, mais regardez ce qu'on peut faire avec quand même. Il faut savoir quand même que le but étant d'arrêter d'en produire à terme. Alors attends, sinon, on a encore une dernière chose là. Quand vraiment on a fait tout le tour des solutions qu'on a à disposition et que on n'a toujours pas trouvé une solution pour les objets, alors ça arrive là. Donc il y a une partie recyclage, donc là le métal, et puis le reste ça va être du retour déchetterie en non valorisé, comme des choses qui sont incinérables, comme du gravat, le verre, tout ça, des choses dont on n'aura pas réussi à tirer parti pour le réemploi. Malgré le fait que tous les soirs on voit notre responsable de l'animation Ludivine qui vient chercher des trucs en disant ah mais tiens pourquoi ils ont acheté ça, pourquoi, donc chacun, et puis les encadrants techniques aussi passent, chacun passe le soir avant de partir en se disant ah mais pourquoi c'est là, donc, et c'est réutilisé derrière quoi. Mais on a quand même une partie, c'est 5% qu'on essaie de diminuer d'objets qui repartent. Malgré tout cela, sur tout ce qu'on collecte depuis les débuts de la ressourcerie, donc on a commencé la première année en 2015, on a collecté 15 tonnes. En 2019, on était à 157. On a baissé un petit peu en 2020 pour les raisons que tout le monde connaît, on était à 140, mais on va bientôt être à 200. On a donc sur ce tonnage, on a 95%. Qui sont en recyclage ou en réemploi. Donc sur ces 95%, on a un tiers de recyclage et les deux autres tiers, c'est du réemploi. Donc ça va dans nos boutiques, ça va en animation ou en matériaux réutilisés. On a un autre local aussi à Saint-Germain-la-Rebelle qu'on avait avant, qui était trop petit pour faire tout ce qu'on fait maintenant, mais qu'on utilise pour équiper des familles en grande précarité. Donc on a un conventionnement avec la CAF qui permet aux travailleurs sociaux d'orienter vers nous des familles qui, par exemple, ont réussi à avoir un logement HLM mais n'ont pas de quoi le meubler. Donc nous, on met de côté du mobilier, de la vaisselle, des objets de puériculture pour équiper ces personnes qui nous sont orientées par les travailleurs sociaux. Donc on a notre local qui est à côté de l'AHU, qui est un accueil d'hébergement d'urgence, qui a les clés du local, qui peut faire visiter un petit peu notre stock qu'on a mis en mode entre guillemets showroom pour que les gens se disent tiens, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'un lit pour les enfants, j'ai besoin d'une table et des chaises pour dans la cuisine, j'ai besoin d'un peu de vaisselle. Et ensuite, donc soit ils peuvent l'emmener s'ils ont un véhicule, sinon on peut leur livrer directement si vraiment ils n'ont pas de moyens de transport. Et on a équipé l'an dernier 30 à 40 familles, je n'ai plus le chiffre exact, c'est entre 30 et 40 familles. Et ça nous permet en faire, d'une part, d'avoir un impact social certain, tout en évitant, encore une fois, de remplir des bennes avec des meubles qui on n'a rien à reprocher, à part leur aspect, peut-être des fois un peu vieillot. Et c'est pour ça qu'on s'est équipé aussi d'une aérogommeuse, notamment pour les meubles de grand-mère un peu marron foncé, on les passe à l'aérogommeuse et ça leur redonne un aspect bois brut. Et on peut derrière les repeindre, les décorer, les remettre à sa sauce en fait. Et ça, c'est plutôt intéressant.
Oui, parce que la ressource AAA, les 3A, signifie alternative, artistique et artisanale. Et avec ce que Johan vient d'expliquer, on comprend bien le choix des 3A. Les ressourceries, c'est un réseau en France, donc il y en a partout en France. Et du coup, pour être ressourcerie, il y a 4 piliers. La collecte, la valorisation et le réemploi d'objets de seconde main. Et la dernière partie, on disait, c'est la sensibilisation. Du coup, il y a l'axe environnemental pour réduire les déchets et l'axe social, puisque les personnes qui travaillent ici sont en CDDI, contrat à durée déterminée d'insertion. Et ce que Yann disait, que ça favorise l'emploi local et non délocalisable. Et après, on peut rajouter qu'on a 3 boutiques. La boutique historique, c'est au 106 rue de Bourgogne. On a une boutique à Saint-Jean-de-Bray au 610 avec le pôle ESS et la Coopérette. En ce moment, on a la boutique éphémère à Place d'Arc en partenariat avec Emmaüs qui fermera bientôt le dimanche 19 décembre et c'est ouvert du mercredi au samedi de 10h à 19h. On a parlé de la boutique en ligne sous le label Emmaüs. Et on collecte des objets, on peut acheter des objets, mais on peut aussi donner des objets, nous on dit collecte. Tous les jeudis matins de 10h à midi, il y a un camion devant le 106 rue de Bourgogne, c'est pour les personnes qui n'ont pas de voiture en Orléans Centre, comme ça ils peuvent déposer dans le camion. On peut prendre aussi rendez-vous sur le site internet et déposer directement ici au local de valorisation à Saint-Jean-de-Bray. Et puis Johan parlait des aires de réemploi en déchetterie, on peut aussi déposer en déchetterie.
Alors, vous avez souvent parlé de gisement. Qu'est-ce qu'un gisement dans le jargon de la recyclerie, d'une recyclerie, d'une ressourcerie ?
Alors nous, on ne parle pas de déchets, on parle de ressources. Et ces ressources, elles vont être classées par gisement, c'est un type de ressource. C'est-à-dire qu'on va avoir un gisement de textile, on va avoir un gisement pour la vaisselle, on va avoir un gisement pour le mobilier. C'est toute la séparation entre les divers types d'objets que nous faisons. Pour notre traçabilité, ça nous permet de dire que quand on a commencé, on avait un tiers de textile à la fois dans la collecte et dans la vente. Maintenant, ça a baissé un petit peu et c'est plutôt les appareils, ce qu'on a dit D3E, donc déchets électriques, électroniques, et je ne sais pas le troisième E.
Électroménager.
Enfin voilà, D3E, ça représente tout ce qui est appareils électroménagers, informatique, électronique. Et c'est devenu notre gisement le plus important en collecte et c'est un des plus difficiles à réemployer parce qu'il faut de vraies compétences pour réparer ces appareils-là. Donc on a des bénévoles et des salariés motivés, mais des fois ça suffit pas toujours, hein, notamment à cause de l'obsolescence programmée. Je pense aux imprimantes qui sont clairement des objets faits pour être vendus pas cher mais marcher pas très longtemps. C'est un peu mieux pour les imprimantes laser, mais quand on est au jet d'encre, c'est pas top. Et puis, qu'est-ce qu'on a comme autre gisement ? Donc, j'ai parlé...
Produits culturels.
Produits culturels, voilà, on est passé dans la grotte.
Sport, bricolage, jardinage et jeux et jouets.
Jeux et jouets,
d'accord. Jeux et jouets, tout à fait.
Ouais, ouais. Et puis, on a une petite catégorie upcycling. Donc, c'est tout ce qui s'appelle transformation créative. C'est quelque chose qu'on. C'est un gisement qui est plus aussi gros qu'au début de la ressourcerie chez nous. Mais on essaye d'y revenir. C'est tout ce qui va être transformation d'objets, transformation de matière. Et on a de temps en temps, on sort des petites choses. Et c'est ce que fait notamment Ludivine, notre responsable d'animation, qui elle fait de l'upcycling en changeant l'utilité ou l'utilisation des objets ou des matières qu'elle réemploie avec ses ateliers.
Le tremplin, créé il y a 35 ans à Saint-Privé-Saint-Mémin, collecte, trie et recycle dans ses ateliers et ses deux boutiques en créant des emplois à destination de personnes éloignées du travail en vue d'une réinsertion dans la vie sociale et économique. Corinne Mathiasos, directrice du tremplin, nous fait découvrir l'association.
Alors déjà pour commencer, le tremplin a été créé en 1985, donc ça fait très longtemps que nous existons sur la place. Nous sommes conventionnés par l'État et le département pour accueillir des personnes qui ont plus d'un an de chômage. Donc actuellement, on est sur une soixantaine de personnes en insertion. Nous proposons des contrats à durée déterminée de 4 mois, de 24 heures. Donc notre mission principale du tremplin, c'est d'accompagner les personnes dans leur projet professionnel, soit pour aller vers l'emploi, soit vers la formation qualifiante. Donc, et pour ça, on a des activités, bien sûr, comme on fait partie de l'économie sociale et solidaire, on travaille beaucoup sur les déchets recyclables. Donc, on traite du papier carton, des déchets d'équipements électriques et électroniques. On fait aussi des encombrants, des petits travaux de manutention. Mais notre déchet phare, c'est le textile. En fait, depuis 2013, nous collectons le textile. Donc, nous avons commencé le tri en 2014. Et dans la même année, nous avons aussi ouvert notre boutique en centre-ville qui s'appelle « Des habits et moi ». Donc aujourd'hui, on traite en moyenne 900 tonnes de textiles entre ce que l'on collecte dans les bornes et les dons de particuliers. Tout le textile est ramené ici, trié, et les plus belles pièces sont revendues sur notre boutique. Et depuis cette année, nous avons notre dernier bébé qui est né, puisque nous avons ouvert notre site de vente en ligne qui s'appelle deshabillez-moi-orléans.fr. Et là, c'est exclusivement pour la femme. Alors que sur nos boutiques d'Orléans, c'est l'homme, la femme et l'enfant.
En ce qui concerne peut-être l'insertion professionnelle, comment vous travaillez le projet professionnel avec les personnes qui sont employées ici? De quelle manière? Sous forme de rendez-vous régulier? Il y a un suivi? Il y a des étapes
Oui, alors tout à fait. Donc en fait, on a une soixantaine de salariés, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Et pour encadrer ces salariés, on a quand même tout un staff. Nous avons aujourd'hui 5 encadrants techniques d'insertion. Donc ce sont des permanents qui travaillent sur les postes de travail, qui accompagnent les salariés dans l'apprentissage des tâches au quotidien, mais c'est vraiment lié au travail. Et nous avons 3 conseillers en insertion professionnelle qui, elles, vont travailler sur le projet professionnel. Donc en fait, elles reçoivent tous les salariés en moyenne tous les 15 jours. Ça peut être plus en fonction des projets des uns et des autres. Quand il y a des, tout dépend aussi comment ils aboutissent dans leur projet, s'ils sont prêts à l'emploi, plus rapidement que d'autres. Quand c'est un projet de formation aussi, s'il y a besoin de préparer la personne pour qu'elle puisse rentrer en formation. Enfin voilà, donc en moyenne, oui, c'est 2 rendez-vous par mois, plus le travail quotidien des encadrants. Ce qui est important de noter aussi, c'est que les conseillères et les encadrants travaillent en lien, puisque eux, en fait, ils connaissent les compétences transversales des salariés qui peuvent être aussi retravaillées dans le cadre du projet professionnel.
Donc après, vous les orientez vers des parcours de formation, par exemple, où ici, ils se forment aussi à d'autres pratiques. Et est-ce que cela peut déboucher à des emplois par ailleurs pour ces personnes? Oui.
Alors en fait, nous, on est quand même très axé sur les métiers de la logistique ici, en tout cas sur le siège social, puisqu'on a le centre de tri, on a les salariés qui partent en collecte, et après, on a la partie vente sur la boutique. En général, les personnes qui sont sur la boutique ont quand même un projet dans la vente. Donc l'encadrante va travailler quand même toutes les bases qu'il faut dans la vente. Mais je parle de la vente au particulier, puisque nous, la boutique ne vend pas des entreprises. Hein. Donc là, on va travailler toutes les compétences de base, en fait, hein, qui sont, je dirais, multipliables sur d'autres magasins. Et puis sur le centre de tri, ils travaillent dans la logistique, mais ils n'ont pas forcément un projet en logistique. Par contre, il y a des compétences qu'on peut retranscrire sur d'autres métiers. Donc voilà, c'est ce travail-là que l'on fait aussi avec nos salariés. Après, souvent, les retours à l'emploi, c'est quand même beaucoup sur les métiers de chauffeur, cariste. On forme beaucoup de caristes, les quelques vendeuses, et beaucoup aussi dans la préparation de commandes.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous orienter plus vers le textile et vers justement la vente directe aux personnes, plus que d'aller vers des circuits de recyclage peut-être plus traditionnels?
Eh bien, déjà en 2013, moi j'ai assisté à des réunions qui ont été organisées par la métropole d'Orléans, où ils assistaient beaucoup sur le réemploi. Et quand ils ont lancé cet appel d'offres sur le textile, il était intéressant en fait de travailler déjà sur le projet de la boutique, parce qu'on était dans le réemploi. Et c'est un système qui est abouti. On collecte, on trie et on revend pour avoir le minimum de déchets et bien sûr en avoir le moins possible en incinération. Et en plus, la seconde main, on commençait à en parler, c'était les balbutiements. Et sur Orléans, il n'y en avait pas, hormis Emmaüs qui fait ça depuis des années. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de magasin de seconde main en plein centre-ville d'Orléans. L'idée aussi de faire un magasin en centre-ville d'Orléans, c'était d'être une boutique comme les autres pour que nos salariés puissent être bien formés et que les autres boutiques puissent nous identifier comme un commerce du centre-ville, tout simplement. Voilà. C'est ça.
Et donc d'assurer aussi la formation vente,
bien sûr,
vraiment de vos, ouais, salariés. Avant, en effet, vous étiez plus dans le recyclage peut-être de pièces informatiques ou de pièces d'électroménager et tout ça. Est-ce que vous avez gardé cette activité ici?
Alors, l'électroménager, c'était il y a très très longtemps, parce que moi, quand je suis arrivée en 2012, déjà, on ne le faisait plus. Donc c'est vraiment la compétence d'envie aujourd'hui. Et après, sur le reste des 3E, donc plutôt le matériel informatique, on faisait énormément d'écrans cathodiques. Donc les écrans cathodiques ont disparu, donc on avait moins d'équipements. Donc c'est une activité que l'on collectait, triait, démantelait. Aujourd'hui, on continue à faire du matériel informatique en collecte. On trie, mais on ne démantèle plus. En fait, on a fait des partenariats avec Écologique, hein, l'éco-organisme, mais aussi une petite entreprise sur Orléans qui est Norip, qui elle fait du démantèlement, et recrée des ordinateurs. Voilà. Donc, on essaie de travailler le maximum en local.
Être une structure de l'économie sociale et solidaire, ça veut dire quoi pour vous, justement?
Je trouve que ça donne du sens, en fait. Déjà, ça donne du sens de travailler dans des structures comme les nôtres. Déjà, parce qu'on a une action sociale, bien sûr. Et puis on est, on lutte contre le gaspillage en faisant ça aussi. Et l'achat solidaire, c'est aussi nous aider à continuer à pérenniser nos structures, à continuer à aider les personnes qui ont besoin de, à un moment donné, qui ont une brisure dans leur vie, une cassure. Ça peut être un licenciement économique, ça peut être un deuil. Et on n'arrive pas à remonter la pente. Et nous, on a du sens. Donc on aide aussi, on est là pour épauler, coacher. J'ai même envie de dire que c'est du coaching qu'on fait. Et redonner aussi l'envie et le dynamisme pour retourner sur le marché du travail.
Alors maintenant, nous allons parler un petit peu des salariés de Tremplin. Comment arrivent-ils jusqu'à vous? Quel est leur profil? Est-ce que ce sont plus des femmes? Est-ce que ce sont plus des hommes? Quel âge à peu près ont les salariés ici?
D'accord. Alors, les salariés qui arrivent au Tremplin, depuis cette année, c'est une nouveauté, sont orientés par la plateforme de l'inclusion. Donc, en fait, c'est une plateforme qui existe pour les emplois solidaires, où les candidatures sont agrémentées par le Pôle emploi, par les CCAS, par la mission locale. Et donc, nous, on vient piocher, entre guillemets, sur cette plateforme pour avoir des candidatures. Mais on a aussi le biais du bouche à oreille qui fonctionne très bien au Tremplin, puisque ça fait une trentaine d'années qu'on existe. Donc voilà pour la partie recrutement, enfin en tout cas sourcing. Et après, le recrutement, c'est comme un recrutement classique dans une entreprise. On convoque la personne. Ce sont des entretiens qui durent en moyenne une demi-heure, où on essaye en fait de capter la motivation de la personne. J'irais que ce qui nous importe plus, c'est la motivation. Je dirais que c'est la première chose qu'on va essayer d'évaluer chez la personne. Peu importe le parcours, je dirais que c'est vraiment si la personne elle a envie de travailler. C'est ce qui va nous décider dans le choix de cette personne. Pour en revenir après sur le profil de nos salariés, donc la moyenne d'âge, elle est de 39 ans, hommes et femmes confondus. On essaye de travailler la parité homme-femme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on accueille à peu près 45% de femmes pour 55% d'hommes, bon, grâce bien sûr à notre activité textile et la vente en magasin qui est plutôt féminin. Voilà, c'est ce qui nous permet d'arriver aussi à cette parité. Voilà, la durée moyenne de parcours au Tremplin, elle est d'environ 14 mois. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont rester 6 mois, 8 mois, d'autres un peu plus. Tout dépend comment ça se passe durant leur parcours.
Bonjour.
Oui, bonjour. Alors, moi, c'est Tigui. Je travaille ici comme trieuse. Il y a des big bags qu'on trie. Ici, c'est la crème. Ici, c'est la crème et les crèmes. Il y a les crèmes, il y a les chaussures.
Ce que vous appelez la crème, c'est ce que vous gardez?
Oui, c'est ce qu'on garde. Les crèmes aussi, on garde. Mais ça va en Belgique et en Guinée, quoi. La crème peut aller en boutique et en ligne aussi. Et les chaussures aussi, on amène de l'autre côté, c'est eux qui trient. Juste nous, on enlève dans les big bags pour les mettre dans les chariots rouges et puis envoyer là-bas pour les trier, quoi.
Donc en fait, le tri qu'elle fait, donc la poubelle, le deuxième choix pour du recyclage et le premier choix, la crème, pour la boutique. Et en fait, comme c'est un tri, elle trie quand même beaucoup, hein, elle trie à peu près une tonne par jour. Hein. Donc du coup, on refait un tri quand même pour la boutique, plus élaboré. Il y a encore un autre contrôle qualité qui se fait. Voilà. Et donc c'est cette partie-là. Bon, vous voyez, tout ça, ça va partir à la boutique. Donc, les chaussures également, qui sont classées par catégorie.
Donc là, le critère, c'est le niveau d'usure, j'imagine.
Alors ici, c'est excellent état. Parce qu'on ne vend que de l'excellent état sur la boutique. Alors, on a créé sur nos deux boutiques d'Orléans des catégories à 2 euros. Donc ce sont des vêtements qui ont un tout petit défaut, mais qui peuvent se mettre quand même. Voilà. Mais du coup, c'est pas cher du tout et les gens font des affaires. Il peut même y avoir des manteaux. Voilà, ça arrive.
Donc nos salariés en fait trient par catégorie de vêtements. Tout est mis après en sac. Voilà, donc c'est trié par saison, par sexe et puis par catégorie de vêtements. Daté, le nom de la salariée, comme ça, s'il y a des erreurs de tri, ça nous permet, nous, de refaire une formation pour pas que ça se reproduise, et le poids. Tout notre stock se fait en poids, en fait, en kilos, et pas en nombre d'articles. Donc on va retravailler tout l'aménagement de l'atelier pour rendre les postes ergonomiques, pour éviter que les personnes aient le moins possible à se baisser. On va acheter des rôles à fond remontant. On va éviter d'avoir des chariots qui tournent, des chariots genre appareil de levage, hein, dans les ateliers pour des raisons de sécurité, parce que c'est quand même assez étroit. Donc tout va être sur roulette pour une rotation simple dans nos ateliers, en fait. Donc nous, on trie à peu près en 8 catégories ici. Et quand ça arrive en Belgique, ils vont retrier encore tout ça en plusieurs catégories pour faire du chiffon, de l'isolant. On va aller voir le site web. Zali, notre encadrante technique, notre responsable web et communication du tremplin.
Bonjour.
Radio Campus.
D'accord. Donc, je suis Viviane de Radio Campus et en effet, je viens visiter le lieu, le tremplin. Oui. Et puis, j'ai appris que vous aviez un site web maintenant de
vente. Comment
vous
ne le savez pas? Donc voilà, donc, le site web, c'est ici que ça se passe. Donc, vous voyez, toutes les rangées de vêtements, tout ça, ça a été saisi sur le site. Donc, on a à peu près à 6000 articles de saisie. Et donc, on a des rédactrices, des trieurs, des contrôleurs de qualité, des préparateurs de commandes, des photographes. Parce qu'en fait, on fait des très belles photos, puisqu'on prend des photographes, des appareils photo professionnels. Je ne dis pas de bêtises.
Non, non. Est-ce que vous voulez nous en parler davantage, Valérie?
Du site?
Oui.
Le
site.
Approche-toi.
Des photos, du dressing qu'on a ici.
Le site est sur le web depuis mai, donc il est tout jeune, tout récent. Il a encore plein de choses, plein de progrès à faire. Mais tous les jours, on améliore un petit peu le design. Les pièces sont vraiment des pièces de qualité. Alors tout ça, c'est des dons. Hein. On est clair, on n'a rien acheté. C'est des dons de particuliers, donc il y a des choses qui sont... Alors, on prend vraiment le top du top de ce qu'on nous donne, et on nous donne beaucoup de belles choses. Soit des choses très peu portées, soit carrément des vêtements qui sont neufs, avec encore l'étiquette, qui n'ont jamais été portées du tout. On a des pépites, c'est-à-dire qu'on a vraiment des marques, hein, on a Saint Laurent, on a Nina Ricci. Je ne vous mentirai pas, c'est pas la majorité, hein, mais on en a. Et donc voilà, tout ça est présenté sur le site internet et les commandes se font, donc partent d'ici et on met un point d'honneur à les envoyer quasiment le jour ou le lendemain si elles sont reçues trop tard. Voilà, et là on a des pulls de Noël, on fait une opération sur les pulls de Noël et voilà, et on ne peut que grandir en fait.
Comme on est dans l'économie sociale et solidaire, ce qu'on a voulu aussi transmettre à travers le site internet, c'est garder le lien avec le client. C'est que ce n'est pas le client qui est derrière son ordinateur. Donc dans la préparation des commandes, on veut personnaliser le travail qui est fait. Et donc Vali, à chaque fois, met une petite carte avec la personne qui a préparé la commande. Derrière, on rappelle la cliente, savoir si ça s'est bien passé. Enfin voilà, donc c'est vraiment montrer qu'il y a du lien en faisant un achat solidaire avec le tremplin.
Le tremplin, c'est préserver la planète par le tri et le recyclage, mais c'est aussi prendre en compte l'humain par l'aide à l'insertion de nos salariés. Donc tout ça, c'est un état d'esprit qu'on essaie effectivement de retranscrire et qui fait notre spécificité.
Un conseil style, peut-être, pour Noël?
Un conseil style?
Oui, un conseil style solidaire.
Eh bien, écoutez, on a plein de pulls de Noël à vendre sur notre site internet, donc allez-y. Il y en aura aussi sur notre boutique en centre-ville d'Orléans. Et on a aussi beaucoup d'articles de fête, des belles robes de soirée, des belles chemises aussi pour les messieurs, hein, faut pas les oublier. Voilà, donc voilà le petit clin d'œil que je pourrais faire pour les fêtes de fin d'année.
Merci. Alors, on retrouve où en ligne, c'est sur quelle adresse votre site web de Déshabillez-moi?
Alors, donc, c'est Déshabillez-moi, ça se touche, -du6orléans.fr. Voilà. Et donc là, vous allez trouver tous les articles pour la dame, du vintage, des grandes tailles, des petites tailles, il y a tout. Voilà. Et à peu près aujourd'hui, on en est à peu près à 6000 articles de saisie.
Alors, il a fallu sûrement travailler aussi l'informatique pour faire une plateforme de vente en ligne. Qu'est-ce que ça représente ?
Beaucoup de travail, beaucoup de réflexion. Voilà, c'est un projet qui a démarré l'année dernière en mois d'octobre. Le site a vu le jour au mois de mai 2021. Et vous voyez, il y a eu 6 mois de brainstorming, de réflexion, de créer le cahier des charges du site, qui est en perpétuelle amélioration, bien sûr. Ce qu'il faut savoir dans la création d'un site internet, c'est que le plus long, c'est la saisie des articles. Parce qu'il faut faire beaucoup de photos. Il faut regarder les articles sur toutes les coutures pour que ce soit parfait pour la cliente, pour éviter les retours. Donc oui, c'est des heures et des heures de travail. La définition des articles aussi, donner le plus de détails possible, faire les mesures. Parce que souvent, les tailles, aujourd'hui, ne correspondent pas forcément à la morphologie de la personne. Donc, pour qu'elle puisse s'identifier, on prend toutes les mesures. Voilà, comme ça, elle peut se permettre de faire le choix de cet article.
Comment on peut expliquer le renouveau du vintage, si je puis m'exprimer ainsi ?
Alors, le vintage et puis aussi la seconde main. Voilà, en général, le pouvoir d'achat baisse hein, des personnes. Les étudiants n'ont pas forcément beaucoup d'argent non plus. Les retraités non plus. Donc, on se dit que plutôt que d'acheter un produit neuf, je ne sais pas moi, à 100 euros, on peut l'acheter à 10 euros dans une boutique de seconde main. Je sais que nous, en tout cas, dans nos boutiques, on voit de plus en plus de jeunes venir. Et puis, il y en a pour qui c'est vraiment une mine d'or aussi. Et c'est dans leur concept, c'est leur façon de vivre. C'est d'acheter aussi de la seconde main. Voilà, tout simplement. Sur nos boutiques, on voit ça va de 16 à 80 ans, j'ai envie de vous dire. Voilà, en étant très large.